Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans une nouvelle bulle d'histoire. Ça sera la bulle d'histoire pré-Noël, donc j'ai choisi un album, enfin plus qu'un album, un livre sur l'histoire de la bande dessinée qui peut faire un excellent cadeau de Noël. C'est un gros bouquin, parfaitement bien illustré. La maquette, je trouve qu'elle est assez formidable, elle est vivante, elle est colorée, elle est pleine de surprises. Elle va bien avec le projet du livre. Le livre, c'est 100 ans de bande dessinée, publié par les éditions Larousse, et je suis avec son auteur, Yannick Charrère. Yannick, bonjour.
Bonjour à toutes et tous, merci Stéphane pour l'invitation.
Ravi de t'avoir dans cette bulle d'histoire. Avant de commencer à parler de ton livre et de ton projet, question rituelle des bulles d'histoire, qui es-tu ?
Eh bien, je suis quelqu'un qui écrit. Écrire est mon métier, pour reprendre le titre d'une exposition de Louis Fang à Angoulême. J'écris de plusieurs façons différentes. Je suis chargé de communication, pour communication digitale pour un groupe de travail temporaire et de recrutement. Ça, c'est mon temps plein, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, je suis aussi journaliste spécialement sur la bande dessinée, journaliste critique à Zoomanga. Voilà, et j'écris, j'ai fait un petit peu de scénario aussi. J'ai cette chance-là aujourd'hui de pouvoir vivre du métier de l'écriture au sens large. Et c'est un vrai bonheur avec cette dernière brique, l'écriture d'un livre, comme tu le disais, ce qui n'a rien à voir avec le travail d'article que je pouvais faire jusque-là.
Bon, c'est un vrai travail d'historien de la bande dessinée que tu as produit pour les éditions Larousse. Comment est venue l'idée de ce livre ? Parce qu'il y a évidemment pas mal de livres sur l'histoire de la bande dessinée, il n'y en a pas quantité, mais il y en a quand même régulièrement qui sortent. Comment est venue l'idée de ce livre et pourquoi l'existence de ce livre ?
Eh bien, assez simplement, l'idée vient de l'éditeur. Ce sont les éditions Larousse qui m'ont contacté en octobre 2022 pour me proposer d'écrire un livre. Donc à ce moment-là, quand on est simplement journaliste et qu'on n'a pas d'idée d'écrire un tel ouvrage, on se dit « Waouh, c'est énorme, ça va être dur, ça va être galère », mais on se dit on ne peut pas dire non. Évidemment, j'ai dit oui, et tout de suite, bon, j'ai demandé quel était un peu le cahier des charges, puisque c'était un travail de commande. J'ai donc un certain nombre de, pas d'exigences, mais en tout cas d'éléments essentiels, puisqu'on est dans la catégorie « Beau livre » chez Larousse. Donc, il y avait des attentes, il y avait ce format article, thématique, plus critique qui était demandé. L'année précédente, ils avaient déjà sorti un livre qui s'appelle, dans mon souvenir, qui doit être 100 ans de manga. L'idée, c'était d'avoir quelque chose. Là, cette fois-ci, alors, au départ, sur la bande dessinée, et moi, je suis arrivé avec ma spécificité, en tout cas, professionnelle, qui est que je m'intéresse aux trois continents de la bande dessinée. Je ne suis pas un spécialiste d'un univers du manga, je ne suis pas spécialiste du comic book ou de la BD franco-belge. Et j'essaye d'englober, d'embrasser vraiment ces trois continents et de créer un maximum de ponts. Donc, quand l'éditeur m'a fait cette proposition, je lui ai dit bah, « Écoutez, ok, mais dans ce cas-là, je veux pouvoir parler des trois continents. » Donc, tant qu'à faire, autant se compliquer un peu les choses. Donc, ils ont accepté qu'on aille sur cette richesse-là. Et ça m'a permis d'explorer, donc, 70 à peu près thématiques que j'ai définies moi-même, avec une thématique, avec une critique, un livre, une BD emblématique que j'ai choisi, et globalement, sauf un ou deux, on pourra en reparler si tu veux, j'ai vraiment eu cette liberté éditoriale d'élaborer un sommaire complet, riche, et que j'ai voulu aussi différent peut-être, en tout cas des grands classiques du genre, il y a des albums dont on doit parler. Évidemment, on parle de Tintin, évidemment, on parle d'Astérix, on parle de Naruto, de One Piece, on parle de Mortel Adèle. Ce sont des passages obligés. Mais par contre, j'avais envie d'aller aborder tout un tas d'autres sujets à travers ce livre, et donc j'ai eu la chance d'être suivi par Larousse.
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est quand on lit des histoires de la bande dessinée, souvent c'est très érudit, c'est chronologique, il y a beaucoup de détails. Finalement, on lit toujours à peu près la même chose et ça s'adresse finalement à un tout petit public. Là, toi, le livre que tu as conçu, c'est à la fois, évidemment, ça s'adresse aux spécialistes de la bande dessinée qui vont être surpris, qui vont avoir tout le loisir de critiquer, de dire qu'il manque ci, il manque ça, j'aurais mis ci, j'aurais mis ça, évidemment. Mais je trouve que la force de ce livre et son intérêt, c'est vraiment le côté grand public. C'est-à-dire que ça s'adresse à des gens curieux, à des gens qui ont envie de découvrir la BD. C'est aussi un truc qu'on peut offrir pour faire découvrir la BD, parce que, comme tu le disais, tu vas dans tous les sens. Et ça, c'est un formidable outil de promotion pour le 9e art.
Il y a peut-être un secteur sur lequel je suis un peu plus faible, je le reconnais en ce moment, je m'en rends compte, c'est la BD alternative, qui peut manquer un petit peu dans ce livre. Mais côté, pour tout le reste, en effet, j'ai essayé de proposer quelque chose de très très large, mais à la fois de sortir des sentiers battus. En fait, je déteste les arbres qui cachent la forêt. À titre personnel, je suis plutôt pas client de Pénélope Bagieu, Jules, Riyad Satouf, tous ces gens qui aujourd'hui prennent de la place dans les médias pour parler de bande dessinée et dont on va parler exclusivement, quasi exclusivement. J'avais envie, évidemment on va en parler, évidemment certains y sont aussi, mais j'avais envie qu'on puisse aller plus loin, qu'on puisse aller découvrir des artistes, des œuvres qui changeaient, qui sont à mon sens, importante dans l'histoire du média.
Il y a évidemment les grands artistes de la bande dessinée, mais il y a plein d'artistes, aussi de publications, parce que ce n'est pas uniquement sur les albums. Les thèmes que tu traites, il y a un peu d'économie, il y a aussi les petits formats, il y a les comic strips américains, enfin, il y a tout ça. Là, j'ouvre la page, moi, j'ai biberonné à ça avec mon père. C'était les blecs et les choses comme ça. Souvent, c'est évacué dans l'histoire de la BD. On passe dessus en disant que c'était formidable. Ou idem pour la BD gastronomique, des thèmes qu'on s'attend pas à trouver.
Bah, ça a été, comme tu dis tout à l'heure, c'est vrai que tu parlais d'un livre historique. Alors j'ai pas la prétention d'être historien du tout. J'essaye évidemment de respecter quelques règles, pas académiques, mais voilà quand même un peu de rigueur dans mon écriture. Mais de ce point de vue historique, voilà, quand si on parle de la bande dessinée, il faut en effet, pour moi, il fallait pas rater les grandes étapes et l'album de bande dessinée est une étape parmi d'autres. C'est pas comme ça que la BD est née. Elle est née dans les journaux et comme le gimmick c'était 100 ans de bande dessinée, je me suis arrêté en 1922, mais la BD de presse, on sait très bien historiquement quelle date, c'est comme ça, c'est là qu'elle est née, mais alors presque là qu'elle est née, puisque Monsieur Jabot, Rodolphe Töpffer, on est sur la littérature en estampe, comme on dit, on est sur du livre déjà, mais je pense à The Yellow Kid aux États-Unis, je pense à l'illustration, aux illustrateurs, tout ça naît dans la presse. Donc ça me semblait important de venir en parler pour qu'on puisse comprendre le mouvement de la bande dessinée sur un siècle. Et en même temps, j'ai voulu aller chercher des angles différents. Quand tu parlais d'économie, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis très, j'aime observer le monde de la BD aussi dans ces, alors j'ai envie de dire, dans ces superstructures. Et donc là, par exemple, oui, il y a j'ai un article sur la bande dessinée digitale. Je dois avoir un sur la BD de crowdfunding aussi, de financement participatif. Ils sont des mouvements tout récents, enfin. Pour le digital, maintenant, on est quand même à plus de 30 ans d'expérimentation, mais quand même. Et j'ai eu envie voilà, de proposer quelque chose qui ne soit pas lassant pour le lecteur. À chaque fois, l'idée, c'est que vous puissiez venir picorer dans ce livre. Vous prenez un article, il va faire 2-4 pages. Vous avez un sujet, vous le fermez, le livre, vous revenez, vous allez en piocher un autre. Et si j'ai bien fait mon travail, un, vous vous dites « Ah oui, ce bouquin-là, il fallait en parler ». Deux, vous vous dites, comme tu l'as dit toi-même, il manque ça, il manque ceci. Et trois, vous allez lire, lire ou relire d'autres livres. Si j'ai bien fait mon boulot, ce sera ça qui se passe.
Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, parce que je trouve que ce qui m'a intéressé, c'est qu'on y entre à la fois par le titre des micro-chapitres, parce que c'est des micro-chapitres à chaque fois, ou bien par une illustration, mais il y a des albums que j'avais soit jamais vus, soit complètement oubliés, et on se dit « Ah, bon sang, bien sûr !» Et hop, on se remet à le chercher. Et ça fait partie du charme de ce genre d'ouvrage aussi.
Et ça a été passionnant à l'écriture, composer ce menu. Ça a été vraiment, c'est presque une des plus belles choses qu'on puisse confier à un journaliste, à un critique de bande dessinée. C'est, vas-y, fais ta sélection. Je pense à beaucoup de livres qui sont sortis ces derniers temps. D'habitude, c'est 10, 15 journalistes qui travaillent dessus. Là, on m'a dit, vas-y, t'es tout seul, c'est toi qui compose entièrement. Ça a été passionnant. Et pour être tout à fait sincère, je me suis posé devant ma bibliothèque et je me suis dit, bon alors, qu'est-ce que j'ai dans ma bibliothèque? De quoi j'aimerais parler? Quelle est ma BDTech idéale? Je suis reparti ensuite regarder mes premiers blogs, mon premier blog qui s'appelait Les Chroniques de l'Invisible, sur lequel j'avais fait beaucoup d'articles. Et donc, j'ai repris l'index, il existe toujours ce blog, pour en dire, voilà, quels étaient les livres qui m'ont marqué, ceux que j'aurais pu oublier, parce que on reprend même sur juste les 20 dernières années, on rappelle, on est sur plus de 1000 sorties par an depuis 20 ans, 5000 depuis 10 ans. On sélectionnait, je pense qu'il y en a en tout, il y en a entre 300 et 400 que j'évoque dans le livre. C'est juste un boulot de dingue. Donc, pour les 70 en tout cas que j'ai voulu sélectionner en focus, en critique principale, je suis allé regarder ce que j'avais en stock, les auteurs que j'avais envie de mettre en avant, ceux qui me paraissaient essentiels, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça a été vraiment passionnant à faire. Après, c'était un vrai crève-cœur parce qu'il y a plein de choses que moi-même j'ai dû délaisser. Et une fois que j'avais cette première liste, je me suis dit, quel thème est-ce que je peux faire émerger? J'ai travaillé sur les mouvements historiques, puis après, j'ai essayé de faire des familles. Et c'est là que je me suis dit, la BD de Samouraï, par exemple, ça peut être un angle qui me permettrait de parler à la fois de Oko en franco-belge, Uzagi Yojimbo en comic book, et Lone Wolf and Cub en manga. Et là, tu te dis, avec ces trois-là, j'ai un univers passionnant. Et ensuite, ce qui a pu se passer, c'est que parfois, il y a aussi des articles qui ont... j'avais une liste d'albums prévue avant l'écriture de chaque article. Je me dis, je vais parler de ces quatre albums dans le papier. Et certains, parfois, ça a changé. J'ai dit à mon éditrice, je parlerai pas de ce... Je change ma liste parce que mes recherches font que mon histoire... Chaque article est une petite histoire. Et j'ai essayé d'être cohérent. Et à un moment donné, il y avait des titres qui, moi, me paraissaient importants en première intention, que je n'arrivais plus à intégrer dans l'histoire que je racontais. Et donc, je leur ai dit, je les ai enlevés, j'en ai mis d'autres, qui étaient moins forts pour moi, personnellement, c'est-à-dire pour mon émotionnellement, mais qui, historiquement, me semblaient plus pertinents.
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est quand on lit l'album, on a l'impression, alors peut-être que c'est la juxtaposition qui fait cette impression-là, qu'il y a une véritable logique, même si les thèmes ne sont pas forcément logiques entre eux. Quand on feuillette l'album, on déroule une histoire qui est... chaque épisode arrive logiquement les uns après les autres. Ça, c'est l'impression que j'ai eue. Après, c'est peut-être une impression de lecteur.
La chronologie n'a pas été simple à résoudre, notamment je vais être très sincère, pour les années 1920-1945, sur lequel aussi je suis moins fort. Je le confesse, je suis beaucoup plus léger sur cette période-là, n'étant pas historien et du coup n'étant pas spécialiste de la période. Et il y a parfois des thèmes que j'ai mis, par exemple, la BD, je ne sais plus comment ça s'intitule l'article, mais dans les premiers articles, il y a sur la BD qui joue avec les codes. Je me suis dit, donc là, on parle par exemple de Marc-Antoine Mathieu et de tout son travail avec Julius Corentin Hacfac, de Sherlock Holmes, dans la tête de Sherlock Holmes pour les titres récents. Et en fait, si ce thème-là est venu, c'est évidemment pour commencer avec Winsor McCay. Et là, je me dis, oui, le sujet, il est transgénérationnel, transépoque. Oui, je vais parler d'un siècle en un article. Mais celui-là, je vais le positionner plutôt en entame, plutôt sur la période 22-45, parce que en me disant, les codes de la BD, c'est là qu'ils sont posés. C'est à cette époque-là qu'ils sont posés. Et déjà, des artistes viennent les remettre en question. Donc, c'est des partis pris. Et on se dit, est-ce que ça marche? Et si ça a l'air fluide, ça veut dire que j'en suis ravi. Mais c'était une vraie inquiétude, surtout quand c'est son premier livre sur cet exercice-là.
L'autre parti pris que j'ai trouvé intéressant, c'est que régulièrement, tu parles de certains éditeurs. Alors, il n'y a pas les gros, les très gros, les Glénat, les Delcourt, des choses comme ça. Mais on a le label 619, on a l'association. Tu disais qu'il manquait de bandes dessinées alternatives. Moi, je trouve que ces deux éditeurs, évidemment, que j'aime énormément, surtout le label 619, ce sont des sortes de BD alternatives. En tout cas, c'est des gens qui réfléchissent vraiment à ce qu'ils produisent.
Oui, alors, c'est vrai que la BD alternative, je l'ai quand même un peu travaillée, mais côté américain, sans doute, j'étais très injuste avec les Français. J'étais plus marqué, manifestement, par Crump, par Women's Comics, que par Frémok ou d'autres auteurs comme, des éditeurs comme ça. Donc, désolé pour s'il y a une mise à jour, promis, j'y retravaillerai. Et ensuite, j'ai voulu aller chercher. Alors, bah, l'association, quand je fais un article sur eux, c'est parce qu'il me semble que cette maison d'édition incarne un mouvement, un moment clé dans l'histoire de la bande dessinée. Donc celui-là, il était incontournable, hein, je veux dire, Jean-Christophe Menu peut pester autant qu'il veut contre les éditeurs, les gros éditeurs qui l'ont piqué, ses auteurs et ses formats. N'empêche que cet homme a changé la face de la bande dessinée. Alors, pas tout seul, évidemment, c'est une équipe, c'est une association, ils sont six, mais lui et les autres ont apporté quelque chose de nouveau, et donc ça me paraissait important de le pousser. Et ensuite, comme je suis allé chercher des collections, il y a la collection Vécu, il y a la collection Grand Angle, je sais que les amateurs de BD, les lecteurs de BD franco-belges aiment ça. Ils ont des collections importantes, et donc je me suis dit, ben, je vais faire des focus là-dessus aussi, parce que à chaque fois, on est dans des univers qui travaille une cohérence. Donc, donnons à voir ces cohérences-là, donc Vécu, Air Libre, et la dernière qui me semble la plus pertinente, la collection la plus pertinente, c'est évidemment le Label 619, qui maintenant est vraiment une collection de chez Rue de Sèvres, qui me paraît proposer, comme tu le disais, une BD intelligente, pensée, contemporaine, voire même avant-gardiste, en tout cas en tournée vers le futur, tout en étant absolument accessible. Et là, je trouve que c'est vraiment le mélange parfait, quoi. C'est vraiment, là, cette année, j'avoue que Frontier de Guillaume Saint-Gelin a été encore une énorme claque que j'ai beaucoup défendue pendant l'année, parce que je trouve qu'il a tous ces caractères qui incarnent la très bonne bande dessinée, à la fois grand public et intelligente.
Je voulais te parler d'autre chose, on va faire ça après, de ton métier de critique et de ce travail de critique de bande dessinée, mais pour finir sur le livre, qu'est-ce qui, dans toutes tes recherches, qu'est-ce qui t'a le plus surpris, amusé? Quel sujet tu aurais envie de creuser peut-être pour un deuxième livre?
Alors, il y a deux éléments. D'abord, ce qui m'a le plus surpris, et c'est pas un élément c'est un élément méta au livre, c'est la place de l'iconographie et l'impact de l'iconographie. Pour moi, en tant que journaliste, je parle de ce que je veux, et ensuite je mets les couvertures des livres, les planches des albums, c'est open, c'est libre. Donc, je fais comme je veux, et mes médias ne sont pas embêtés. J'ai découvert que pour écrire un livre sur la bande dessinée, ce n'était pas la même chose. Et que il y a des éditeurs qui ont refusé les droits d'iconographie. Donc déjà, un, il faut payer pour mettre les images. Et dans un livre qui se veut beau livre, donc très illustré, s'il n'y a pas les images, on ne fait pas l'article. Et donc, par exemple, j'ai fait un article sur les scénaristes de bande dessinée. Le premier titre que j'avais choisi, c'était Batman Arkham Asylum, pour mettre en avant le scénariste Grant Morrison. Et DC Comics a refusé qu'on utilise les visuels. Donc, mon éditrice m'a dit, il faut changer le titre. Ok, j'ai fait dans ce cas-là. Je vais revenir vers l'obstacle que j'ai volontairement choisi de ne pas franchir, Goscinny, évidemment, et donc Astérix. Et là, l'article que j'ai écrit sur Astérix, j'ai dû le réécrire deux fois, parce que les éditions Albert René ne nous autorisaient pas les droits d'illustration si certains critères n'étaient pas respectés. Donc j'ai découvert que ma liberté éditoriale, ma liberté d'écriture était quelque peu limitée, en tout cas encadrée plutôt, même si à 95%, j'ai écrit ce que je voulais, comme je le voulais. Mais voilà, c'était une évolution. Et donc, ça, c'est le premier point. Et ta deuxième question, plus rapidement. Moi, le deuxième sujet que j'ai envie de continuer à creuser, c'est la question, la place des autrices de bande dessinée. C'est un sujet, moi, qui me tient à cœur. Tout mâle blanc, que je suis, hétéro que je suis. Je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. J'ai essayé de leur accorder de la place, à la fois dans le choix, dans le nombre de titres que j'ai choisi, j'ai été attentif à ça. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas de parité parce que ce n'est pas possible et que ce n'était pas souhaitable. Je n'ai pas cherché à l'obtenir. Mais en tout cas, j'ai été sensible à pouvoir à leur donner de la place. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Moi, c'est un sillon que j'ai envie de creuser parce que les femmes, elles sont là depuis longtemps. Elles sont là depuis Jacqueline Rivière, scénariste de Bécassine, en passant par Nine Culliford, coloriste des Schtroumpfs, jusqu'à aujourd'hui Léa Muravic et Le Grand Vide chez 2024. Donc il y a, à mon avis, du travail à faire là-dessus.
Oui, mais ça se passe, c'est notre travail de journaliste et de critique, de bien faire notre travail, j'allais dire, sans chercher la parité, parce que le critique est libre d'écrire ce qu'il veut, hein, mais effectivement de s'intéresser aux autrices. Et juste avant toi, la précédente bulle, c'était donc justement Zelba, et on a parlé du grand incident, et c'était un vrai délice. Mais pour revenir à l'iconographie, mon métier, c'est iconographe pour la presse. Et donc, c'est un problème que je connais très, très bien. Mais là, on se heurte au droit d'auteur. Donc,
Absolument.
C'est pas aussi simple que ça, quoi.
Tout à fait. Et donc, j'ai découvert que si je voulais écrire un livre à 100%, en étant libre à 100%, il fallait que je me passe d'image. Voilà. C'est pour ça que, les analystes, les universitaires, font des livres avec beaucoup de textes et peu d'images. C'est aussi pour ça. Hein. Ça coûte moins cher et on est plus libre pour écrire.
Oui, oui. Bon, ça va. Il y a quand même beaucoup d'images. Et
Sûr. Mais par exemple, typiquement, il y a un élément qui a été clair d'entrée de jeu. La Shueisha, éditeur japonais, ne donne quasiment aucun droit. Et donc, je n'ai pas pu parler de My Hero Academia en manga parce que c'était une série incontournable, parce que la Shueisha ne donne pas les droits. Enfin, en tout cas, j'ai pu en parler, mais je n'ai pas pu faire de gros plans dessus. Donc ça, c'est contraignant. La couverture, alors que je vous dis depuis tout à l'heure que j'écris un livre sur les trois continents de la bande dessinée, il y a 4 couvertures d'albums sur la face principale du livre. Ce sont 4 titres internationaux, mais de BD franco-belge, parce que les éditeurs américains comme japonais ont refusé que leur livre puisse servir finalement de promotion à un autre livre. Voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça. C'est hyper intéressant à découvrir.
Donc on vient de parler de ce livre absolument génial qu'il faut se procurer dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Je dis juste ce que je dis à la fin d'habitude, mais donc c'est des éditions Larousse. C'est un gros et beau livre qui fait 200 pages, qui est au tarif de 29,95. Donc c'est vraiment un très chouette cadeau de Noël. Mais tant que je t'ai sous la main, pour ainsi dire, c'est un critique de bande dessinée important, qui devient de plus en plus important. Et parmi tous les critiques de bande dessinée que je connais, tu fais partie d'une toute petite minorité de critiques, d'abord qui ne mâche pas ses mots, premièrement sur les albums, mais qui aussi a une façon très politique de faire de la critique de bande dessinée. Ça, moi, c'est une chose qui m'intéresse, parce que normalement, on dit que les critiques, les journalistes doivent avoir une ligne de neutralité, donc on peut critiquer un album sur sa qualité, mais toi, tu n'hésites pas à prendre des positions, je dirais presque éthiques, et ça, c'est assez rare dans les critiques de bande dessinée. Qu'est-ce qui te motive et comment tu poses la limite et tu poses les jalons pour parler comme ça ?
Alors, je dirais que sans doute le fait déjà d'avoir lu Le Canard enchaîné dans les toilettes de ses parents à l'âge de 10 ans a dû avoir une incidence sur ma façon de penser. On sous-estime la puissance du dessin de presse. En même temps, si c'est l'histoire de la bande dessinée, hein, la BD est née là-dedans, elle était à la fin des journaux sérieux. Donc ça vient de là. Donc oui, j'ai une dimension très, très politique, ça me passionne, la petite me passionne. C'est vrai que j'aime, je pourrais pas me passer de voilà. Je vais être très grandiloquent là, mais je pense de philosophie, de morale. Je suis pas très bon sur ces univers-là. Hein. Je prétends à rien. J'ai pas lu tout Freud comme disait Coluche. Ça fait partie de ma vie. J'essaye à titre personnel d'être cohérent avec moi-même, avec mes idées, d'être de plus en plus cohérent. Et donc, j'assume que en tout cas ma vision des choses, c'est que nous avons tous et toutes une grille de lecture de la société qui n'est pas la même. Pour faire deux secondes de politique, entre la gauche et la droite, l'élément central, c'est le niveau par lequel on regarde la société. La droite considère l'individu, la gauche considère le collectif, pour faire très très simple et très rapide. Et on voit pas les choses de la même façon, ça veut pas dire que l'autre a forcément tort, même s'il étant un peu militant, forcément, je pense que l'autre a tort. Je vais pas être de mauvaise foi, mais quand même... Voilà, il n'y a pas raison. Mais voilà, en tout cas, j'assume ça. Et c'est vrai que quand pour moi, une œuvre est artistique. C'est-à-dire qu'une œuvre est politique, pardon. Une œuvre artistique est politique au sens où, on fait de la communication, on y met un message. Dans toute chose, il y a un message, j'ai envie de dire, même dans One Piece, il y a un message. C'est-à-dire que là, typiquement, je me suis regardé, alors j'ai lu quelques tomes de One Piece, notamment pour préparer le bouquin, mais avant ça aussi, et puis j'ai regardé la série Netflix qui vient de sortir, la série animée, cette force positive, cet enthousiasme, cette force à aller de l'avant, c'est un message politique, j'ai envie de dire. Cette façon de dire que le personnage principal a d'aller envers et contre tout, de n'accepter aucun obstacle, tout ça, c'est politique. Donc, il me semble en tout cas essentiel qu'on puisse en parler, que je puisse le commenter. Et voilà, et je ne vais pas me refaire. Alors après, par exemple, je vais être tout à fait clair, on va dire d'où je parle, hein, je n'ai pas de souci avec ça, je suis de gauche, depuis longtemps et assumé. Mais par contre, je respecte profondément, par exemple, quelqu'un comme Jean Van Damme, pour ses talents de scénariste, ses talents d'écriture pure, technique. J'ai détesté SOS Bonheur, qui est à mon avis un très grand classique, parce qu'il me donnait à voir la vision politique, philosophique de l'autre bord. Et j'ai envie de dire, j'ai estimé qu'il me contestait toutes mes valeurs à moi. Donc c'est hyper intéressant. Donc j'ai détesté ma lecture, mais par contre, je l'ai trouvée hyper intéressante. Et j'essaye d'avoir, en tout cas, toujours cette ouverture-là sur beaucoup de sujets, c'est-à-dire de m'intéresser à une BD dans toute sa diversité. J'ai envie de dire, je suis de gauche et j'ai du comic book. D'accord ? Donc je dis comic book de super-héros, on ne fait pas moins gauchiste que Marvel et DC Comics. Donc chacun ses contradictions. Mais c'est vrai que derrière, je vais prolonger ça avec des positionnements. Alors je vais être... on va citer le nom qui fâche, parce que notamment, il a été très compliqué l'an dernier, même pour moi. Je boycotte Bastien Vivès depuis maintenant 3-4 ans, par exemple. Depuis que j'ai lu Le Chemisier, et que j'en ai eu marre. En fait, j'avais essayé de trouver dans la décharge mentale, je n'avais pas connaissance par ailleurs de la partie harcèlement liée à l'autre autrice, Emma. J'avais pris l'album comme il arrivait, j'avais essayé d'y trouver un sens. J'avais galéré, mais j'avais essayé quand même. Et en fait, après, j'ai lu Le Chemisier, et quand sur la dernière scène, la dernière case, il nous montre encore un gamin lié... c'est le gamin qui regarde un couple en train de faire l'amour, dit ça me saoule, j'arrête, je veux plus en entendre parler, il a un fond qui me convient pas. Donc quand l'an dernier, quand il y a la polémique qui éclate sur l'exposition d'Angoulême, moi oui, en effet, je continue de ne pas parler de Bastien Vivès. C'est un choix, c'est un parti pris, je l'impose pas aux autres. Évidemment, là je vais peut-être déplaire à beaucoup de gens, c'est aussi, mais j'ai été moi satisfait du résultat. J'estimais qu'il n'était pas pertinent de lui accorder une exposition. Mais derrière, je n'oublie pas qu'il y a des visions philosophiques des choses. C'est-à-dire que je sais que on a eu des discussions, on a eu des prises de bec fortes avec certains de mes collègues, voire même qui étaient des bons copains, sur ce sujet-là, sur cette question de la liberté d'expression. Peut-on tout dire ? C'est notre éthique personnel et l'éthique, j'ai envie de dire, elle n'est pas la même pour quelqu'un qui est né en 1980 comme moi, quelqu'un qui est né au début des années 60. On n'a pas la même vision des choses et du coup, ça va influencer notre travail de critique. Nous, critiques, on n'est pas, hors sol. Il ne faut pas qu'on se trompe. On est tributaire de là d'où on vient, de notre pensée, notre classe sociale, de notre parcours, et in fine, de notre travail, ça se voit. Je pense qu'il faut juste avoir l'honnêteté de se le dire, en effet, et ensuite, libre à chacun d'adhérer ou pas, de venir nous lire ensuite ou pas, voilà. Mais c'est vrai que typiquement, 100 ans de bande dessinée, mon attaché de presse, je lui ai dit, tu n'envoies pas à CNews et à Europe 1, c'est pas la peine. C'est pas la peine, enfin, ce serait du bad buzz, parce que sans être foufou, mais oui, je donne une grande place aux autrices, j'ai donné plusieurs sujets sur la BD, soit LGBT, soit la transidentité. Oui. Je n'ai pas de leçons à donner, j'ai pas de leçon à donner, mais c'est des angles qui sont là et je savais très bien que de toute façon ça leur plairait pas. J'essaye d'être ouvert quand même, hein, faut pas exagérer, mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il faut être sincère, honnête, et à partir de là, libre aux gens ensuite de nous suivre ou pas.
Comme tu dis, les critiques sont pas hors sol. Quel cage qu'on ait, quelques moments qu'on soit né, on doit quand même penser à la société dans laquelle on vit et on n'a pas à transporter des choses que m'ont appris mon père, mon grand-père, voilà, c'était des hommes des années 1910, 1940, mais moi je vis en 2023 et je trouve ça intéressant, effectivement, en tant que critique, de dire, voilà, moi je parle depuis cette position-là. Et les albums que je lis, et je peux prendre du plaisir à lire du comics américain tout en étant de gauche, c'est deux choses très différentes. Je peux le lire avec plaisir, sans être dupe du message qui est transmis, évidemment. Donc voilà, je voulais juste qu'on échange un peu là-dessus, parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne et que j'essaye de mettre dans mon métier, moi aussi. Et on est quand même très peu, c'est une position qui est hors de toute courtisanerie, qui est très honnête. Voilà, je voulais juste partager ça.
Alors, c'est pas courtisan, mais quand même, on va être sincère, hein, on est dépendant. Les critiques de bande dessinée aujourd'hui sont dépendants des éditeurs, au sens où nous recevons des services de presse, nous avons besoin d'eux pour nous alimenter en lecture. On pourrait le faire, moi j'achète beaucoup de livres, hein, c'est pas la question, je reste un bon client de mon libraire, je reste un très bon client de mes bibliothèques municipales, mais en tout cas, pour suivre l'actualité, on a besoin des éditeurs. Ça nous rend pas dépendants, enfin je dis dépendants, mais en tout cas, ça va être plus compliqué d'aller dézinguer un album, d'aller... Alors bon, on peut se demander déjà, faut-il le faire ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont créé derrière, il y a 9 mois de boulot derrière, il y a 10, 2, 12, peut-être 24 mois de travail, est-ce qu'il faut se comporter comme un... avec méchanceté sur un tel boulot ? Peut-être pas, mais en tout cas, nous, critiques de bande dessinée, on est quand même dans une dynamique où on se dit, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de place, on va mettre en avant nos coups de cœur. Donc, on est quand même un univers, contrairement à la littérature, littérature blanche, je pense notamment, où les critiques peuvent vivre sur le fait de dézinguer des livres. Je pense à Eric Nolot le faisait chez Ruquier à la télé, hein, et ça faisait sa marque de fabrique. Même si on est libre de dire ce qu'on veut, on reste dans un petit monde qui, aujourd'hui, où on a besoin les uns des autres. Donc, on est sincère. Moi, j'essaie d'être sincère, à défaut. C'est-à-dire qu'un livre que je n'aime pas, peut-être que je ne vous en parlerai pas, mais si je n'ai pas des éléments techniques pour le dénoncer, c'est-à-dire, parce que, comme tu viens de l'évoquer précédemment, il y a nos ressentis, nos émotions, et notre philosophie, mais il y a quand même, la BD, c'est de la technique, c'est un découpage, c'est une façon de dessiner, c'est une façon de raconter une histoire. Là-dessus, il peut y avoir des albums qui sont mauvais. Et ça, je trouve que c'est important de se le dire. Mais objectivement, les éditeurs font quand même plutôt bien leur boulot. Des livres vraiment mauvais, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors, c'est ceux qui sont vraiment destinés à être des produits de consommation, des produits de flux. Et dans ce cas-là, je confesse que ce n'est pas ceux que je lis le plus.
Non, mais il y a aussi une responsabilité par rapport aux gens qui nous lisent. C'est-à-dire que moi, j'ai critiqué très durement une série il n'y a pas très longtemps. Et parce que j'estimais que ce qui était annoncé sur la couverture, ce n'était pas ce qu'il y avait dans l'album, et il y avait un mensonge sur la quatrième de couverture. Je ne pouvais pas laisser passer, c'est un exemple.
Ça m'est arrivé une fois, en fait, avec une éditrice et une maison d'édition, où j'avais eu une présentation presse d'un titre à venir, et j'avais été enthousiasmé par la présentation, vraiment, j'étais convaincu, c'était tout ce qui allait me plaire. Et en fait, quand j'ai lu le livre, eh ben, je l'ai trouvé 3 tons en dessous. Vraiment, il était beaucoup mieux vendu que ce qu'il n'avait été réalisé, et je l'ai écrit. Et je l'ai écrit et je me suis pris un taquet de la part de l'éditrice derrière. Je me suis pris, alors c'est pas moi qui l'ai pris directement, mais je sais qu'il est venu. Et là, tu fais, ouais, bah oui, mais à un moment donné, voilà quoi. C'est, oui, vous, éditeur, vous êtes aussi impliqué d'ailleurs, il n'y a pas que les auteurs. J'entends bien que chacun et chacune se donne à fond, notamment chez les petits éditeurs, hein, où ils défendent leurs livres, ils s'engagent et ils y croient. Mais oui, de temps en temps, on a le droit de dire en effet qu'il y a un raté. C'est possible, ça peut arriver.
Yannick, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Le temps file et je te dis à bientôt pour un prochain livre. Et surtout, je conseille aux éditeurs de te suivre sur les réseaux, notamment ta page Facebook, où tu fais un nombre de micro-critiques en deux phrases, trois phrases, enfin, ouais. c'est rapide. Voilà, c'est très sympa à suivre et ça donne une bonne idée de l'actu de la BD, parce que tu en lis énormément et donc on a du manga, du comics, du franco-belge, on a un peu de tout et c'est vraiment... C'est très sympa, des fois c'est énervant, des fois c'est... Voilà,
c'est gratuit, c'est gratuit, c'est personnel, c'est mon espace perso d'expression. Et vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn, où je communique une fois par semaine autour de la bande dessinée, voilà, sur des sujets la plus globaux, plus variés, pas sur de la critique, ou de temps en temps, mais en tout cas, j'essaye de parler de BD. Merci à toi.
À bientôt.
À très bientôt, merci à tous.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh ! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.